Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Parlons un peu à nouveau de bâtiments, de patrimoine bâti. Vous avez entendu dans nos nouvelles, notre collègue est sur place à Paris, Philippe Bonneville, et nous tient au courant un peu de ce qui se passe depuis ce terrible incendie qui a ravagé une bonne partie de la cathédrale Notre-Dame. Évidemment, le bâtiment tient toujours grâce aux pierres qui ont été érigées il y a plusieurs siècles. Évidemment, nous, de l'autre côté de l'Atlantique, on regarde ça. Puis ça nous donne l'occasion de parler de notre propre patrimoine bâti. Vous savez à quel point l'histoire m'intéresse. Vous savez aussi que je suis très intéressée par la sauvegarde de nos vieilles pierres à nous. On n'en a pas tant que ça comparativement aux Européens. Alors, moi, je pars toujours du principe que gardons celles que nous avons dans la mesure où elles représentent un héritage historique. Tout n'est pas bon à garder, c'est vrai. Vous allez me dire, il y a des affaires qui ne méritent pas qu'on les garde. Mais certaines, on se demande comment ça se fait qu'on n'a pas plus d'entrain à essayer de trouver des façons de les sauvegarder. Il y a quand même, ça fait quoi, plus de 400 ans que ce coin d'Amérique que nous habitons a été colonisé par les Français, par les Anglais. Les Premières Nations y étaient. Il y a moyen ici, chez nous, de faire beaucoup plus que ce qu'on fait. Et pour en discuter, on va en parler avec des gens qui sont au cœur de toute cette question-là. Dinou Bambarou est porte-parole d'Héritage Montréal, qui a à cœur, bien sûr, et qui se préoccupe depuis très longtemps du patrimoine québécois. Bonjour, Dinou.
Bonjour.
Ça fait longtemps qu'on se connaît.
Ben,
sur ce dossier-là, on s'est souvent parlé.
Surtout de patrimoine.
Oui, exactement. Laurent Turcot est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'UQTR. Merci beaucoup, Laurent, d'être là. Bon, j'ai envie de vous, d'entrée de jeu, de vous demander quelle est votre réaction par rapport à l'offre de notre premier ministre, François Legault, quand il dit qu'il veut aider Paris à reconstruire la cathédrale. C'est presque amusant, non?
Oui, écoutez, c'est une offre naturelle. Tout le monde a un élan de sympathie, de solidarité. Quand ça vient d'un premier ministre, ça paraît un peu plus dans les nouvelles, mais moi, on voit là, sur les réseaux sociaux à quel point les gens... Il y a une fraternité des gens qui s'intéressent au patrimoine. Par contre, qu'est-ce que le Québec peut contribuer? Et je pense que le premier ministre a été quand même assez prudent là-dessus.
Les Français sont pas mal capables de s'en occuper.
S'il y a quelque chose qu'on peut faire, on va le faire, mais on n'est pas là pour aller leur donner des leçons.
C'était plus par politesse, non?
C'est ça. Il y a une politesse planétaire. Tout le monde a manifesté une volonté. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Vous savez, faudra peut-être imaginer qu'on a des richesses qui sont pas nécessairement des statues gothiques qu'on a ici, mais on a tout le hub qui existe à Montréal en intelligence artificielle. Faudra se rendre compte que peut-être qu'on peut imaginer à l'occasion de ce grand chantier planétaire qui va être doté de ressources remarquables. C'est un peu comme les projets de la NASA en termes de restauration. Peut-être qu'on pourrait imaginer des façons de jumeler les nouvelles technologies dont Montréal et le Québec sont des fers de lance avec la prévention des sinistres dans des lieux qu'on ne peut pas toujours faire avec un gardien, avec un fanal là, qui se promène dans les toitures. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là.
Laurent?
Il y a quelque chose aussi qui est fondamental, dont on a parlé un peu dans les médias, c'est qu'il y a Ubisoft quand même qui est installé à Montréal. Et on avait, pour un jeu auquel j'avais contribué, qui s'appelait Assassin's Creed Unity, reconstitué la totalité...
Vous avez travaillé là-dessus?
Oui, j'ai été consultant d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon me détestait à l'époque parce qu'il considérait que le jeu vidéo ne servait à rien et que c'était de l'argent qui était fait pour la crétinisation des masses. Et bien aujourd'hui, on se retrouve...
Assassin's Creed, c'est très bon!
C'est une bonne série. En tout cas, ça donne un horizon d'attente de l'histoire.
Ouais.
Et on a reconstitué tout Paris de 1789 et la basilique Notre-Dame à une échelle de 1 sur 1. Donc, on va dire à quoi
c'est
ça
vrai?
Sert. Ben, on peut l'utiliser dans les écoles. C'est ce que je fais d'ailleurs. Moi, j'ai une chaîne YouTube puis j'ai fait une séquence où on visite le Paris de la Révolution et on arrive devant Notre-Dame. Puis à l'époque, je me disais, quand je l'ai fait il y a un an, je fais regarde, Notre-Dame, tout le monde y va, c'est ultra connu. Les Québécois ont tellement un rapport filial par rapport à Notre-Dame.
Ouais.
Ils n'ont plus besoin de voir ça. Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Si vous voulez la revoir, il faut passer par les jeux vidéo. Et même, il y a tous les gamers du monde, quand Notre-Dame était en feu, qui se sont rassemblés autour d'Assassin's Creed Unity et qui ont joué pour envoyer une espèce de message d'espoir en disant peut-être qu'elle n'existe plus dans la pierre, mais dans le numérique, elle sera toujours. Et où est-ce qu'elle a été faite? À Montréal, ici. C'est l'équipe qui est partie à Paris et qui ont arpenté des espaces où personne n'avait le droit d'aller. Ils ont fait des relevés et il y a un travail hallucinant parce que Dino parlait d'intelligence artificielle, le côté aussi multimédia qu'on a développé.
Mon Dieu, c'est en train de me dire, vous avez eu les plans de reconstruction.
On les a depuis longtemps, ça, par exemple, parce que Notre-Dame a été peut-être reconstituée au 19e siècle, sauf que...
Vous l'avez en 3D. Là,
oui, ça a été fait en 3D, mais c'est vrai, Dino a raison qu'on n'a pas la totalité des plans quand même. La fameuse charpente qu'on appelait dans les toits la forêt, 1200 beaux, belles charpentes en chêne, ça c'était magnifique, c'est une perte, on ne le retrouvera pas malheureusement. Et quand on disait que ça va coûter cher, là, Emmanuel Macron a dit que ça allait prendre 5 ans, je ne sais pas si Dino est d'accord avec moi. Là, je pense qu'il se fait du capital politique.
C'était ma prochaine question. Oui. Est-ce qu'on doit, j'ai l'impression, moi je ne m'y connais pas vraiment là-dedans, mais sincèrement, juste 5 ans, nous, là, juste un nid de poule, on a de la misère à le boucher en 5 ans, imaginez
il ne faut pas diminuer
l'effort.
Le chef de l'État a dit ça, là. Donc on a quand même un régime présidentiel, mais c'est le vrai boss dans un chantier comme ça, si je peux prendre l'expression, ça va être la basilique Notre-Dame.
C'est-à-dire
que c'est un projet qui est au service du patrimoine. Donc, la première, celle qui va décider le temps que ça va prendre, c'est vraiment le monument historique en tant que tel, qu'est la basilique, la cathédrale. Et aller trop vite, des fois, ça encourt des risques pour la charpente, pour la structure. Mais c'est pas mauvais de donner une échéance qui soit pas l'éternité, parce qu'il faudrait pas que ça traîne. Il y a des travaux urgents à faire, parce que la toiture, vous savez, c'est pas juste la décoration. Là, ça sert à chasser l'eau vers l'extérieur. Oui. On se rappelle ces images. Oui. Je sais pas si vous avez vu la basilique, la cathédrale Notre-Dame, quand il pleuvait à Paris, alors que les gargouilles fantasmagoriques crachaient l'eau. C'est un vaisseau qui surgit il y a des siècles. Et c'est merveilleux, mais ça veut dire que pas de toiture, on risque de menacer davantage les structures de pierre, les vitraux.
Donc, vous dites, il faudrait de toute façon, 5 ans, on ne sait pas, mais il faut faire ça vite.
Oui,
si on était très cynique, on pourrait dire aussi que tous les grands présidents de la République française ont laissé à Paris leur marque. François Mitterrand a laissé la Bibliothèque nationale, Jacques Chirac a laissé notamment aussi le Musée des arts premiers, et que va laisser Emmanuel Macron, peut-être, qui s'est dit, je vais en profiter pour servir, parce que...
Pompidou, le centre.
Puis la réélection s'en vient. La crise des Gilets jaunes est très dure pour Emmanuel Macron.
Point de vue politique, Laurent, vous avez tellement raison. Il se passe là quelque chose?
Oui.
Et est-ce qu'il va être capable de concentrer ça autour de lui, sans faire de référence quand il y a eu les attentats de Paris? Parce qu'il faut quand même relever que Paris, depuis 5-10 ans, là, c'est difficile. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements qui l'ont heurté en son cœur. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, on a vu une cohésion nationale, ce qu'on appelle la cohésion républicaine, autour de François Hollande. Ça a tenu 2 mois après François Hollande est tombé dans les sondages. Et là, ce qu'on imagine sans doute, c'est que ça va se rassembler autour d'Emmanuel Macron. On va dire, notre président était là. Il faut relever quand même le discours très beau qu'il a fait, improvisé en citant les grandes œuvres françaises et la grandeur française. Vraiment, je relève
ça.
Mais il faut quand même le relever. C'est un homme de lettres. Et autant je suis très cynique par rapport au temps qu'il va donner pour la reconstruction, autant il a eu cette cohésion et ce rassemblement. Il a pris de la hauteur. Et en France, il faut prendre de la hauteur.
Non, absolument. Puis on est dans une autre figure de chef d'État. Il faut imaginer un président que par exemple, il y en a qui agissent sur Twitter.
Ah, moi, je peux y aller si vous voulez.
Sur Twitter.
On n'aurait pas vu François Legault lancer quelque chose d'aussi lettré. Ouais. C'est un homme qui a une culture très forte, Emmanuel Macron. Oui. Et le tweet de François Legault, aussi gentil qu'il puisse être, après ça, quand il s'est dit Notre-Dame de Paris, c'est un peu nous. Oui, mais est-ce qu'on pourrait en sortir plus?
Tellement.
C'est qu'on attend véritablement de nos hommes d'État. Et on a raison d'attendre.
Mais c'est que
beaucoup
des fois, le vocabulaire, ça aide.
Ben c'est sûr, puis l'éloquence et tout ça. Mais je pense pour l'instant, il ne faut pas imaginer que l'architecte en chef de la restauration de Notre-Dame plutôt que de la reconstruction, là, chassons de notre esprit l'idée qu'elle est disparue, c'est loin d'être là. C'est la toiture magnifique qui était une œuvre en soi, là, mais qui n'est plus là. Mais,
ils ont confirmé hier que toutes les pierres, toute la structure étaient solides.
C'est ça. Il faudrait faire attention, mais c'est une excellente bonne nouvelle. Les vitraux sont là, l'orgue est inutilisable.
Moi, je me disais, peut-être qu'on peut envoyer du bois québécois.
Oui, je sais. Ça, on peut y penser, vous savez, nos grands arbres ont servi à faire les grandes marines de l'Europe.
Pendant l'époque de la Nouvelle-France, on construisait des vaisseaux ici. On envoyait du bois en Angleterre aussi. On a aidé à faire la flotte britannique à la fin du 18e, début du 19e siècle. Donc, c'est vrai qu'on a une expertise. Peut-être que la Miles Davis pourrait servir de ce côté-là. On s'entend que là, on fait de l'opportunisme politique. Ça n'arrivera pas. Mais le savoir-faire québécois, peut-être qu'il pourrait servir. Mais peut-être aussi que nous, on pourrait apprendre, parce que là, on en vient à notre notre patrimoine à nous. Voilà. François Legault pourrait peut-être envoyer des gens pour voir comment ils font
voilà,
pour réparer.
C'est là que je voulais vous amener aussi, mais je trouvais que c'était important quand même de faire un petit bout sur Notre-Dame, parce que c'est de là aussi que nous
mais
a donné envie de discuter de ça.
Juste pour dire, c'est pas Macron, Emmanuel, le président de la France, qui va être l'architecte en chef. Là. Il y aura des vrais professionnels. Dans deux mois, le président de la République va s'occuper d'autres choses. Il y a ses gilets jaunes et toute la gang, toutes les histoires.
Oui, mais là, on vient de dire que ça va calmer les gilets jaunes quand même pas mal.
Il a enclenché quelque chose. Ouais. Et ce qu'on comprend, c'est que l'échéance des 5 ans, c'est surtout les Olympiques.
Oui.
Alors, donc ça,
les Olympiques de Paris.
C'est ça. Donc, alors, il faut... Mais bon, est-ce que c'est possible? Est-ce que quelque chose peut être fait? Est-ce que c'est la toiture? Est-ce que c'est la flèche? Est-ce que c'est l'intérieur? Est-ce que c'est tout? On ne sait pas, mais je pense qu'il faut mettre ça dans le calendrier. Par contre, on parle de qu'est-ce que ça nous donne à nous.
Voilà.
Ben, je pense qu'on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'on a un audit de sécurité de notre patrimoine? Vous savez qu'au Québec, on parle des églises. Hein? Il y a, sur le territoire de Montréal, il y a à peu près 600 lieux de culte. Donc, à peu près 400, 450 qui sont d'intérêt patrimonial. Et puis, c'est pas juste les anciennes. Là. Vous savez, on a des églises de Roger Dastoux qui sont absolument magnifiques ici. Là. C'est pas...
Juste l'île 600, là,
c'est
vous
ça.
Dites. Hein? Juste sur
c'est
l'île
ça.
De Montréal.
Alors, peut-être qu'à Paris, il y en a 250. Mm-hmm. Alors, tu sais, faut quand même relativiser pour nous parce qu'effectivement, on est un endroit, et puis c'est pas juste des églises catholiques. Tu sais, Montréal, c'est l'endroit où il y a des... Et le Québec, en général, tu sais, où on a la rencontre de grandes plaques tectoniques historico-culturel, le franco-catholicisme, l'anglo-protestantisme turco-laurent à côté de moi va être un spécialiste de ça, mais il y a aussi toutes les, c'est un foyer de la culture juive, les communautés immigrantes, et le patrimoine religieux est un peu le reflet de ces grandes plaques qui se rencontrent ici. Mm-hmm. Faut pas le négliger, mais les nombres qu'on a, et ce qu'on a, effectivement, en France, il y a eu tellement de chicanes, ils ont décapité autant de curés, d'évêques, ils ont fusillé, tout ça. Il y en avait plus que des rois, vous savez, il y en a juste un à la fois, des rois. Les évêques, il y en a plusieurs. Et par contre, ils ont séparé l'Église et l'État, il y a des mécanismes et des longues discussions qui se poursuivent. Et la propriété des églises est en bonne partie une propriété d'État ou de communes. Alors, tu sais, c'est un système public. Il y a des gens ici, des profs à l'UQAM, il ne faut pas critiquer le réseau de l'Université du Québec, mais il y a quelques années, certains membres du corps professoral étaient qui sont des grandes figures dans notre société, ont dit qu'il faut municipaliser les églises au Québec, comme ça, on va pouvoir les sauver. Quand on regarde l'état des bancs de parc, puis de la chaussée, qui font quand même partie des mandats que les municipalités ont à traiter depuis le 19e siècle, on se demande si elles seraient capables d'assumer un patrimoine qui a besoin de soins particuliers. Il y a des sculptures là-dedans,
les
ordres.
La réponse est quasiment non. Ils ont de la misère à trouver des sources de financement.
Ça pour réparer les bancs de parc.
Mais si on regarde ce qui se passe à Paris,
qui finance en ce moment
le fameux 700 millions qu'on a trouvé
Laurent
très rapidement, ça vient
du privé.
Encore milliards. Là,
c'est un milliard d'euros maintenant.
On est rendu au milliard d'euros. Donc, c'est le privé et ça pose de grandes questions. On se dit souvent, où est l'argent? Eh bien là, vous avez la réponse quand même assez rapide. Quand il y a des trucs comme ça qui nous lient l'état de notre patrimoine au Québec, on se dit, est-ce qu'on a l'argent comme ça? Si François Legault est prêt à dire oui, on va les aider, où sont les grands de ce monde qui ont les grandes entreprises au Québec pour s'investir? Je ne vais pas nommer de nom, mais vous les connaissez, ceux qui ont les poches bien remplies, qui seraient capables de nous soutenir. Est-ce qu'ils payent assez d'impôts? Ça, c'est une autre question aussi. Mais ce n'est pas pour rien qu'on a délaissé notre patrimoine. On est en train de se délester de ça en disant ça ne sert à rien, donc on va réduire la taille de l'État. En réduisant la taille de l'État, il faut en laisser aller. On vient aux plus fondamentaux, puis les plus fondamentaux, entre vous et moi, le patrimoine n'en fait pas partie. Mmh. Et il y a des lettres ouvertes qui ont été faites en France pour dire que les historiens, les conservateurs, les archivistes sont en colère. Pas parce que la tragédie était évitable, mais parce que ce patrimoine qu'on considère fondamental, pas juste français, mais mondial, et laisser aller. Et même si Notre-Dame était bien prise en charge, là, on craint en disant, on va injecter 1 milliard d'euros dans Notre-Dame, mais les petites églises de campagne de Beuvron-en-Auge ou de Lisieux qui vont être délaissées ou délestées, bien là, ça va être dramatique. Et au Québec, comment vous pensez qu'on a laissé se détruire la maison Redpath, l'église de Rimouski ou encore Saint-Sacrement à Québec? Tous ces espaces-là mériteraient d'avoir une vocation, sauf que François Legault est prompt à dire, on va aider Paris. où en est-il maintenant par rapport aux choses? Puis je prends Dinou Boumba, qui est à côté de moi, qui est le premier à dire « faut s'en occuper ». Il déchire sa chemise en public pour dire « il faut l'aider, je vais vous expliquer ce qui se passe ». Et malgré tout, on fait une sourde oreille. Il y a une prise de conscience.
Il n'y a plus de chemise, Dinou.
Mais je le sais, il y a une barbe maintenant.
À force. Mais on doit aller à la pause.
Il y a un peu de décence, là.
On va aller à la pause, bien sûr. Mais j'ai juste une question là-dessus qui chicote beaucoup de gens, je pense, qui nous écoutent. C'est ces grandes fortunes de France qui viennent d'allonger des millions, dans le cas de la famille Arnaud, Bernard Arnaud d'ailleurs, qui est marié à la pianiste québécoise Hélène Mercier, je sais pas si le monde a ça en tête, mais effectivement. Lui, bon, 200 millions d'euros. La famille Bettencourt, L'Oréal, un autre, deux fois 100 millions, un autre 200 millions, ça fait 400 millions. Après ça, il y a Bouygues, des télécommunications qui vont aussi de plusieurs millions. C'est quoi l'intérêt de ces entreprises-là, à part le reçu d'impôts?
Ben, de donner
la gloire,
une caution morale
et
aussi.
La gloire pour la l'éternité, c'est ça?
Ce qui est quand même assez drôle parce que la basilique Notre-Dame a été construite.
Faut quand même le sortir, le cash, non?
Oui, oui, il faut le sortir, le cash. Là, mais au départ, qui a payé, selon vous, pour la basilique pour qu'elle soit élevée sur ses 200-300 ans? C'est le peuple qui l'a payé.
Ouais.
Ah oui, oui, par les impôts, la taxe, la dîme, tout ça de manière indirecte. Et là, en fait, est-ce qu'on aurait redemandé? Et c'est pour ça que quand Emmanuel Macron a dit on va faire une grande souscription nationale, moi j'ai envie de dire, ben c'est ce qu'on appelle l'État, une souscription nationale parce que les gens paient. Donc, est-ce que ça serait pas une manière aussi de se détourner? Il va avoir des reçus d'impôts, bien sûr, pour ces grandes compagnies. C'est très noble. On les encourage et on encourage toutes celles à le faire au Québec. Sauf qu'il y a une prise de conscience morale à avoir là-dessus. Donc, c'est bien. Ça fait du capital symbolique politique pour tout le monde. Mais au final, est-ce que le patrimoine va être conservé et préservé? C'est la grande question que je me pose encore aujourd'hui.
Oui, on va aller à la pause. On revient tout de suite avec mes invités, bien sûr. Va se joindre à nous un petit peu plus tard l'architecte Pierre Thibault. On va parler du Conseil du patrimoine culturel aussi. Il a déjà été membre de ce conseil-là. Mais la question que je vous pose, c'est d'après vous, est-ce que c'est encore important de préserver nos bâtiments historiques? Là, on a parlé beaucoup des églises, de nos quelques grandes cathédrales. On a quand même la basilique Notre-Dame ici, qui a déjà pris feu en 78, ici. En fait,
la
c'était la Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est ça, la petite chapelle. Mais il y a plein d'autres objets patrimoniaux, de patrimoine bâti. Il y a par exemple des vieilles maisons. Puis vous avez vu ce qu'on fait des vieilles maisons? Il y a des maires comme ça, sans consulter personne, qui décident de... pour toutes sortes de raisons, souvent pour faire place à des condos, parce que ça amène, on construit en hauteur, ça amène des taxes, puis les villes sont là-dedans. Où est-ce que je peux aller chercher du cash? Les taxes, ils voient juste ça, là, des signes de piastres dans des condos, là, c'est ça. Alors, une vieille maison qui traîne, elle date du 18e siècle, on s'en fout. Ah ouais, le bulldozer là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Moi, ça m'arrache le cœur. Puis là, on est là à pleurer pour Notre-Dame. Je comprends, vous allez dire deux poids, deux mesures, c'est deux dossiers, vous avez raison. En même temps, nous ici, est-ce que c'est pas l'occasion de se questionner sur ce qu'on fait de nos vieilles pierres? 514-790-9850 pour nous joindre et nous dire ce que vous en pensez. Alors, on s'interroge ce matin si c'est important pour vous de préserver nos bâtiments historiques. On en a quand même pas mal au Québec, là, quand on se met à les compter. En tout cas, assez pour avoir un conseil du patrimoine culturel du Québec, qui normalement devrait s'en charger. On a avec nous, bon, il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir. On parle avec vous, Jean-Michel, bonjour.
Oui, salut, ça va bien?
Oui, ça va très bien, on vous écoute.
Oui, c'est ça. Non, c'est juste pour dire qu'écoutez, je trouve que ce qui a été bâti entre, mettons, 1800 à 1930 à Montréal, c'est une architecture qui est unique à Montréal. Ça devrait être préservé, pas juste en termes de façadisme, ce qui est une recrudescence dans Ville-Marie. On voit beaucoup de projets qui démolissent la carcasse, puis il reste juste la façade. Ça, c'est comme un peu à la Vegas. Il n'y a plus d'âme, ça donne à rien. Selon moi, c'est le façadisme, c'est une piètre excuse pour démolir la bâtisse.
Le façadisme, c'est bon, ça. C'est très, très bon. C'est vrai qu'on fait beaucoup ça.
Il y a beaucoup de projets qui poussent maintenant au centre-ville. Même la maison de Louis-Hippolyte Lafontaine, je pense que de la structure originale, il ne reste plus rien. C'est juste les pierres en avant qui ont gardé.
Ah ouais.
Fait que si je me trompe pas là, mais je suis pas mal sûr, c'est ça que j'avais vu la dernière.
Dino Bombarou là-dessus.
Merci de soulever le point parce que c'est un vrai fléau. Nous on a notre assemblée générale en juin puis c'est un des sujets qui est à l'heure du jour, l'épidémie de façadisme à Montréal, mais on pourrait certainement trouver des excuses ailleurs, mais à Montréal c'est en particulier parce qu'on a un urbanisme de densification qui a dit le patrimoine on s'en occupera après. Tu sais, ben, ça donne ce genre de négociation-là. Puis, bon, des fois, c'est pas si grave, mais dans bien des cas, ça rend l'espace urbain lamentable, franchement, parce que, comme vous dites, là, il n'y a plus de sens, tu sais. Et si on parle, il y a 20 ans, à Paris, au Palais de Chaillot, on avait organisé une conférence internationale. C'était un problème un peu partout, cette question-là. On m'avait demandé de faire la conférence d'ouverture. Les gens pensaient que c'est moi qui avais inventé le terme. Alors, j'ai dû commencer par m'excuser. C'était pas vrai.
Qui a inventé ça?
Il y a plusieurs personnes. Moi, je l'ai appris de mon ancien directeur, Mark London, là, qui est décédé maintenant. Mais
Donc, ça fait un moment.
Ça circulait. Puis ouais. On sentait que c'était un problème aux États-Unis, au Canada en général, dans les années 70, où on a eu des projets qui n'ont pas de bon sens, où on construisait des gratte-ciels, puis tu avais l'espèce de lamentable relique en bas qui agonisait, hein, écrasé par le développement au-dessus. Mais c'est juste pour dire que la conférence internationale, il y a 20 ans, puis on a pu voir que en France, c'était une bataille. Les gens se battaient pour garder pas juste la plure en maçonnerie, mais au moins les premières parties du bâtiment en avant. C'est très, très complexe. Et on a négligé d'ériger les défenses contre ça.
Mais je pense à un bâtiment ici à Montréal, le nouveau CHUM, dont on a gardé une partie,
oui.
Où je pense à l'UQAM, on parlait tout à l'heure.
Oui, on a gardé
L'UQAM, c'est dans les années 70. Ouais. Le CHUM, ça s'est fait 30 ans après, puis c'est comme si on avait gardé exactement la même formule.
Ouais, mais c'est du façadisme, ça?
Ben, c'est du clochérisme, si on veut être...
Voilà. C'est encore... Ouais.
Mais
c'est
pour être précis, il y a même au coin de Saint-Laurent et de Laurier, de Fairmount, il y a un cas où on a inventé l'expression le cornichisme, parce que c'est tout ce qu'on a gardé. Alors finalement, c'est comment, au lieu de garder... Et c'est parce que dans nos prises de décision, des notions qui ont l'air un petit peu philosophiques, et poétiques comme l'authenticité et l'intégrité ne sont jamais présentes. Et dans le cas du CHUM, il faut quand même dire que c'est un projet qui a été décidé par décret du gouvernement, ce n'est pas la Ville de Montréal. Et c'est une formule qu'on a proposée pour le Royal Mount, d'ailleurs.
Ouais.
Ça permettrait au gouvernement de mettre un petit peu d'ordre dans les questions d'urbanisme, mais ça prend un gouvernement éduqué, pas juste qui fait des gestes de force.
On apprend plein de nouveaux mots ce matin, façadisme, clochérisme, cornichisme, et ça veut pas dire les cornichons qui décident d'abattre des
bâtiments. Non, exactement, ça n'a rien à voir avec les cornichons.
On parle à Marie rapidement, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, c'est une question que je voudrais poser au public.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on va regarder en France, en Italie, puis en Espagne quand on voyage? C'est justement les cathédrales, les maisons ancestrales qui ont un patrimoine, une décoration stylisée. Alors, c'est dommage que les gens laissent partir ça parce que ça rapporte beaucoup, même économiquement. On parlait des condos qui rapportaient beaucoup au niveau des taxes. Ça rapporte beaucoup au niveau du tourisme.
Ça, vous avez tellement raison.
Il y a des choses qui ont de la valeur, qui doivent être distinguées de celles qui en ont moins. Mais des édifices qui ont toute une histoire, c'est triste de les laisser partir. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire.
Ben, c'est très, très pertinent. Merci beaucoup, Marie. On va aller à la pause là-dessus. On va revenir, entre autres, avec Pierre Thibault, l'architecte qui, vous avez peut-être entendu au cours des dernières heures parler, entre autres, de Notre-Dame, de ce que ça voulait dire. Aussi, bon, la reconstruction de tout ça. Mais Pierre est aussi très impliqué dans ce qui se fait ici, au Québec. On vous parle également tout de suite après la pause parce que je vous pose la question. Est-ce que vous estimez qu'on devrait faire plus pour préserver notre patrimoine à nous, notre patrimoine bâti? Il y a Mathieu qui dit, juste à voir comment on prend soin de nos personnes âgées, ça donne une idée de l'importance qu'on porte à notre patrimoine. Puis je pense qu'il y a assez raison. Il dit, malheureusement, on ne s'intéresse pas assez au passé. Je vous redonne le numéro, 514-790-9850. Et pour nous joindre partout, vous faites sans frais le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. On s'intéresse à notre patrimoine bâti. Notre patrimoine, c'est tous ces objets historiques, ces vieilles pierres, ces maisons anciennes, ces églises. Ça va du chemin de croix à tout ce que vous voulez là, qui date. Évidemment, tout n'est pas bon à garder. On va en parler avec mes invités. Je vous rappelle, je suis en compagnie de Laurent Turcot, qui est prof d'histoire à l'UQTR, et de Dino Bambarou d'Héritage Montréal. Se joint à nous Pierre Thibault, architecte, qui a déjà été membre du Conseil du patrimoine culturel du Québec, qui s'occupe justement, qui est assez préoccupé par l'état de certains bâtiments. Bonjour Pierre Thibault.
Bonjour.
Vous êtes à Rimouski, on me dit, c'est parce que vous êtes sur le dossier de la cathédrale de Rimouski?
Non, je suis passé devant ce matin, mais non, c'est pour d'autres projets là, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Alors, je suis ici, il fait une journée magnifique.
Parce qu'il y a un petit enjeu quand même avec la cathédrale.
Oui, bien sûr, effectivement. Écoutez, c'est sur la rue principale à Rimouski. C'est devant le fleuve. Puis elle est actuellement fermée, je pense, depuis 2014.
Depuis 2014,
oui. Exactement. Puis on voit à l'extérieur, bien là, il y a des treillis, des toiles pour maintenir, en fait, protéger là, la maçonnerie, donc, qui est pas stabilisée. Alors, c'est vrai que c'est pas... c'est un peu étrange de voir un bâtiment aussi important dans une ville. C'est le plus haut, le plus imposant à être dans un tel état. Donc, ça lance pas un très bon message.
Mais ça fait 5 ans que c'est fermé, cette cathédrale à Rimouski. Imaginez, Macron, il propose de refaire Notre-Dame en 5 ans, lui. Puis nous, on est encore en train de penser à ce qu'on va faire avec celle de Rimouski. Ça, je trouve, ça nous enligne. Ça répond à la question que je pose ce matin. Vous trouvez pas, Pierre Thibault?
Oui, effectivement. En fait, c'est sûr que la France, en termes de patrimoine, c'est pas pour rien que c'est le pays le plus visité au monde. Les gens vont voir le patrimoine français, je veux dire, en priorité. Alors, on voyait 14 millions de personnes, imaginez, qui allaient visiter Notre-Dame. Donc, c'est énorme. Alors, nous, on a des attraits aussi très intéressants, donc, mais il faut déjà être conscient collectivement que c'est une richesse. Et on a l'impression que c'est pas toujours le cas. Là, on le voit plus comme un boulet que comme une richesse. Alors, je pense qu'il faudrait comme changer un peu notre attitude par rapport à notre riche patrimoine.
Tout à fait. Hugues m'écrit, cathédrale de Valleyfield, réputée être la plus grande en dimension du Canada. Feu de toiture en 2002, restauration pas encore terminée par manque de financement. Ça, c'est un autre exemple.
Mais c'est ça, effectivement. On a des exemples. Je prendrais l'église Saint-Jean-Baptiste à Québec, qui est immense, là, qui a été fermée aussi il y a quelques années. On a même arrêté le chauffage, les conduits ont tout. Alors, c'est après avoir mis beaucoup d'argent pour rénover la toiture, donc le ministère de la Culture a donné de l'argent pour faire des grandes rénovations, puis on la ferme après. Alors donc, il y a, je dirais, un peu un manque de cohérence, et c'est pour ça que je pense qu'on a besoin de créativité dans l'utilisation de nos bâtiments, voir qu'est-ce qui est possible. Et vraiment, on sait plus ou moins, on serait capable, je pense, de faire un échéancier des bâtiments qui vont être délaissés et de commencer à l'avance à voir quels seraient les possibilités d'utilisation. Je regarde à Saint-Jean-Baptiste, il y a une école qui est juste devant l'église. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse utiliser les espaces de l'église pour l'école? Il peut y avoir des ateliers, il peut même... Alors donc, je pense qu'il faut, en fait, éviter les silos puis voir comment un espace comme ça peut être utilisé soit à des fins éducatives, soit à des fins culturelles. Je dirais même des fois, dans certains cas, il y a une autre église à Québec qui a été transformée en école de cirque. Donc, c'est un grand volume. Comment on peut réussir à utiliser des volumes comme ça intéressants?
Bien, vous parlez de silo, ça m'amène... Justement, je pensais à silo numéro 5, là, dont on avait dit qu'on en ferait des condos. Qu'on sait, je ne sais plus qu'est-ce qu'on en fait, finalement. Ça fait des années qu'on reste collé là-dessus, ce projet-là, qu'on ne sait pas trop ce que ça va faire. Pierre Thibault...
La société immobilière a lancé un appel de proposition relativement à ce projet-là, donc on verra ce que ça donne.
Mais si je me souviens bien, vous aviez proposé, Pierre Thibault, de redimensionner justement le silo numéro 5 et vous aviez fait une maquette de la chose, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est Laurent Turcot qui me parle.
Oui, effectivement, oui, on a proposé de réutiliser en fait cet artefact, je le nomme comme un immense artefact de l'ère industrielle. Parce que je pense qu'on pourrait en faire un attrait touristique intéressant, puis aussi pour les Montréalais, je suis monté sur les silos, puis c'est la vue de Montréal est extraordinaire, puis quand on est là, on comprend comment c'était le carrefour industriel, parce qu'on voit le canal de la Chine, on voit comment les bateaux, parce que sur le bassin Pise, c'est là qu'il y avait la plaque tournante entre les bateaux qui arrivaient de, si on veut, du fleuve, et ceux qui s'en allaient pour aller vers les Grands Lacs. Donc, c'était pas le même type de bateau parce que le canal de la Chine était tout petit. Alors, on avait... Et Montréal était, à ce moment-là, le centre industriel du Canada. Donc,
est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler à la ministre de la Culture, la nouvelle ministre élue?
Nathalie Roy?
Oui.
Non, écoutez, je l'ai croisé brièvement, mais j'ai pas eu l'occasion de lui parler de ce projet-là. C'est parce que, en fait, je dis, le silo, si on en fait pour avoir un circuit de visite qui nous explique un peu tout toute cette histoire, mais en même temps, c'est un observatoire sur le Montréal d'aujourd'hui qui est incroyable. Là. Donc, je pense que c'est un peu, je dirais, notre Colisée de Rome. Nos vestiges archéologiques ne sont pas de l'époque romaine ici, mais déjà, c'était à l'époque les plus grands silos au monde.
Oui, parce que mais ça, c'est intéressant de rappeler ça, Pierre Thibault, parce qu'il y a bien des gens qui disent, si, ces affaires-là, ça représente rien, c'est pas un symbole de notre histoire, c'est une vieille affaire, justement, d'une époque qui est pas si lointaine. Donc, des fois, on a tendance à penser que patrimoine historique, ça veut dire forcément il y a 400 ans. Mais non, ça peut être aussi plus près de nous. Dis-nous, Mme Barreau, là-dessus.
Moi, Isabelle, je vous regarde, là, comme ça, je suis le chef d'orchestre que vous êtes, mais derrière vous, il y a une image sur le mur qui montre justement Place Ville-Marie, la Tour de la Bourse, ouais. Banque Royale, dans le Vieux-Montréal, le Vieux-Port, mais également Habitat 67. Alors, Héritage Montréal, on a réussi à faire classer Habitat 67 comme un monument historique. C'est un geste pionnier. Maintenant, on a la Chapelle des Évêques à Trois-Rivières, qui est une magnifique réalisation en béton qui date aussi de cette époque-là. Et vous savez, quand on regarde ça, et le patrimoine industriel, qui est un grand patrimoine au Québec, là, eh bien, on se rend compte qu'on a, malheureusement, on n'a pas de politique du patrimoine au Québec.
On n'a pas de politique?
Non, on n'en a pas. Il faut arrêter de penser que parce qu'on est un chapitre ou un paragraphe dans la politique culturelle, on a doté
d'une loi sur le patrimoine qui date de 1922.
Non, elle date de 2012. Elle a été rénovée récemment, mais on n'en a pas fait une loi moderne, c'est-à-dire qu'on a amélioré un petit peu des pouvoirs d'ordonnance du ministre, introduit des notions comme le patrimoine immatériel ou le paysage. Le pouvoir d'ordonnance a permis, par exemple, à Mme Roy d'intervenir dans le dossier du couvent de Berthierville il y a 10 jours.
Ouais.
Mais une loi du 21e siècle, c'est une loi qui aide, qui ne fait pas juste que contrôler un nombre restreint de cas. Et comme aussi cette politique, par exemple, c'est qu'on n'a pas une approche de reconnaissance du patrimoine. Pierre Thibault mentionnait à juste titre que le patrimoine est trop souvent présenté comme un paquet de contraintes, entre guillemets, un paquet de troubles, plutôt qu'une richesse et un actif. Malheureusement, il faut faire ce travail-là. Et ça veut dire qu'on est toujours en gestion de crise.
Et c'est pas pour rien quand on voit que les maires, justement, se disent, écoutez, moi, je veux faire des condos, on détruit, j'ai donné le permis, de toute façon. Ils se drapent derrière une loi qui leur permet de faire ce qu'ils veulent. Et n'oublions pas que la municipalité est une création du gouvernement du Québec. Donc, au final, c'est François Legault, une créature, comme le disait Nidinou, et à la ministre de la Culture. Donc, quand elle a dit dernièrement, on regarde Paris, oui, mais la France, les bâtiments sont à l'État, mais nous, chez nous, c'est à la fabrique. C'est être quand même inconscient de la valeur qu'elle a puis de son pouvoir.
On a quelqu'un qui a acheté une vieille maison ancestrale, Marcel Leboeuf, qui nous écoute. Salut Marcel!
Salut Isabelle!
Toi, tu as acheté la maison Oséas-le-Duc. Tu étais déjà venu nous en parler. Wow. Tu as fait ton chai, tu as tes vignes tout près. Est-ce que c'est plus compliqué d'être propriétaire de bâtiments qui ont justement une signature historique? Est-ce que les règles sont très sévères? Comment tu vois ça, toi?
C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'aime beaucoup tout ce qui est patrimoine, ce qui est conservation. Et quand j'ai acheté en 2006 le terrain et la maison d'Oséas-le-Duc, c'est une dame Leduc-Lamy qui a eu la bienveillance de me vendre tout ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redonné la maison. Il y a une association de musées au Mont-Saint-Hilaire. Hein. Il y a la maison Paul-Émile Bordois, Jordi Bonnet, tout ça. Puis moi, c'était important pour moi. Il n'y avait pas de musée Oséas-le-Duc. Et je trouvais ça inconcevable qu'on puisse penser démolir cette maison-là pour faire des condos. Je trouvais ça inconcevable. Moi, ça me vient de quand
tu nous rappelles qui était Oséas-le-Duc, vite.
Oséas-le-Duc, c'est un peintre extrêmement important des années 1880, aller jusqu'en 1950, à peu près. C'est quelqu'un qui a aménagé beaucoup d'églises, dont l'église, entre autres, de Shawinigan-Sud, l'église de Saint-Hilaire. Il y a une magnifique chapelle au diocèse de Sherbrooke qui a été faite, qui a été aménagée à l'intérieur, les toiles, tout ça, par Diaz. C'est un peintre fabuleux qui... et moi, je trouve ça impensable qu'on puisse détruire ça.
Ouais. Fait que toi, tu l'as redonné à la ville.
Pour que ce soit musée. Puis moi, là, j'ai fait notarier qu'il fallait que ça reste musée. Là.
Mais est-ce que la ville s'en occupe? C'est ça l'affaire aussi, parce qu'après, tu sais, on vient...
Il y a un regroupement de musées.
OK, donc ça, c'est ce regroupement qui s'en occupe.
Ouais. Et moi, là, quand j'étais petit, moi, je suis natif de Lévis. Je restais sur les Fraser à Lévis. Puis, en avant chez moi, quand j'avais 11 ans, il y avait la maison du capitaine Joseph Elzéor Bernier, une maison qui datait des années 1880, et j'ai vu se faire détruire ça.
Ah.
Puis moi, c'est depuis que je suis tout petit que ça m'était rentré dans le cœur, puis je me l'ai dit, un jour, si je peux, je vais sauver un morceau de patrimoine.
Bien, tellement.
C'est ce que j'ai fait. Puis c'est, il faut faire ça. Il faut. Ouais. Tu sais, puis j'espère.
Mais quand t'as des maires qui te prévenent. Mais tu sais, il faut nous prévenir aussi, Marcel. Moi, là, à Chambly, là, sincèrement, on aurait pu faire un GoFundMe, là. Crois-moi qu'on l'aurait trouvé, l'argent. On s'appelle pas L'Oréal ou LVMH, mais je suis sûre qu'on aurait été assez de citoyens. En tout cas, moi, j'aurais donné pour
Ricardo
ça.
Ricardo est débarqué devant les massues de construction. Puis ça n'a pas empêché les gars de dire, nous autres, on a une job, on va la faire, point final.
Non, mais c'est
ça. Même, il y a des députés qui se sont dit, vous allez me passer sur le corps, il s'est fait arrêter par la police. Ah oui. C'est vous dire l'impuissance des citoyens. C'est hallucinant au Québec.
C'est sûr.
C'est parce qu'au Québec, on discute beaucoup des pouvoirs. Hein. Le gouvernement du Québec et les municipalités se partagent le pouvoir, mais il n'y a personne qui s'établit de devoir envers le patrimoine.
On revient tout de suite après la pause. Merci beaucoup, Marcel Leboeuf. Je pense qu'on apprend plein de choses ce matin sur notre patrimoine bâti, sur ce qu'on devrait faire aussi, puis le fait que Notre-Dame de Paris est brûlée, ça nous montre à quel point, de notre côté, on n'a vraiment pas de leçons à donner à personne. Peut-être un peu d'aide, s'il faut. C'est vrai qu'on a des orgues. On nous rappelle ici, il y a quelqu'un qui m'écrit les orgues Casavant, c'est québécois. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans. François Legault disait justement, on peut peut-être aller réparer des orgues. On peut faire beaucoup de choses. On peut surtout avoir beaucoup d'empathie.
C'est un cadeau d'intention.
Voilà. C'est ça. Voilà, puis regardez ce que nous, on peut faire chez nous, déjà. Ça serait déjà beaucoup parce qu'il y a beaucoup de projets qui stagnent. On a Michel avec nous. Bonjour, Michel. Vous en pensez quoi, vous, du patrimoine? Est-ce qu'on en fait assez?
Bien, c'est ça. Nous autres, à Pointe-Claire, on essaie de sauver notre village contre des condos. Puis on est obligé de se battre contre la ville. On est obligé de former des associations de citoyens. On travaille avec une société pour la sauvegarde du patrimoine de Pointe-Claire aussi, qui se bat. On est obligé d'engager des avocats pour essayer de bloquer les projets de condos parce que notre village est en péril. On a plusieurs bâtiments historiques. On a le moulin, on a le couvent. Là, on essaie d'empêcher le projet de condos pour l'ancien hôtel Pointe-Claire. C'est ça, c'est une grosse bataille.
Ben, tenez-moi au courant, on vous aidera d'un point de vue médiatique. Je pense qu'il faut que les gens soient au courant aussi de ce qui se passe, parce que quand on ne le sait pas, c'est difficile de rameuter tout le monde. Là. Merci beaucoup, Michel.
Dans le cas de Pointe-Claire, c'est très important ce qui se fait là, parce que beaucoup d'attention est mise sur la sauvegarde ou non de l'hôtel Pointe-Claire, qui est un bâtiment qui a été intéressant, mais qui a été pas mal magané, passez-moi l'expression.
Ça vaut la peine de le garder?
Mais le village, c'est exceptionnel.
Okay.
Et ça, c'est très important. Comment on intervient dans un milieu ancien?
Oui.
On a appris à faire des choses peut-être mieux dans le Vieux-Montréal, mais il faut penser au quartier, au village.
Voilà.
Et c'est pas juste à Montréal, ça. Il y en a partout. Puis on a vu comment les villages du Québec ont été pas mal endommagés par des projets privés ou publics.
Ouais.
Vous savez, les maisons pour personnes âgées du gouvernement, là, c'est pas toujours subtil.
C'est épouvantable. Puis Pierre Thibault, là, vous essayez de nous construire des écoles qui ont de l'allure pour nos jeunes, hein, avec le Lab École.
Je pense que c'est important. Mais déjà, si les jeunes comprennent que leur environnement bâti est important pour eux dès l'école, donc je pense que ça va aussi les sensibiliser pour la suite des choses. Là.
Ouais. Alors, en même temps, on a tellement... On a la connaissance au Québec, je pense à tous.
Oui,
il y en a des organismes. Je pense à Rue Principale, que je connais depuis 30 ans. Je pense que ça existe encore. Rue Principale, qui, dans les villes et villages du Québec, intervient avec ce désir de conserver ce qui est nécessaire d'être conservé. Mais souvent, ils sont vus par certaines municipalités comme des empêcheurs d'évoluer. Ça devrait pas, ça, François, vous êtes historien...
Laurent.
Pourquoi j'appelle François? Je pensais à François.
Parce qu'on parlait des Français.
Voilà, François.
Mais oui,
Français.
C'est fondamental.
Laurent, excusez-moi.
C'est très difficile pour nous parce qu'on nous voit comme des gens, qui sont des pelleteurs de nuages, on ne sert à rien, des empêcheurs au progrès, le progrès économique. Mmh. Et pourtant, si on arrivait à marier notre culture, qu'est-ce qu'il y a sur les plaques minéralogiques du Québec? Je me souviens.
Ben là, de moins en moins.
Ben, on se souvient de moins en moins, on s'en occupe pas, on n'investit pas. Puis après ça, on se demande comment tout dépérit. Et pourtant, quand vous avez une maison qui date de 100, 200 ans, puis vous allez à la ville, ville pour dire, ben moi, je veux rénover, on va dire, ah ouais, mais il faut respecter absolument la possibilité de respecter comme c'était il y a 100 ans. Tandis qu'on voit à côté, on sacre tout à terre des shoebox à Montréal pour construire des condos sans âme, sans rien, staliniens. On dit, on l'échappe quelque part. Puis quelque part, c'est peut-être que, oui, les municipalités ont leur lot de responsabilités, mais une politique gouvernementale solide, oui, bien organisée à tout le Québec, parce que vous passez le pont de Montréal, vous passez le pont à Lévis, ça s'arrête pas là, le patrimoine. Le patrimoine, c'est pas juste l'urbain, c'est de la campagne. Exact. Puis on parlait de paysage tout à l'heure. On dit, Pierre Thibault disait que le silo numéro 5, c'était notre Colisée. Oui. Notre Colisée aussi, c'est les grands paysages, oui, les parcs nationaux aussi.
Pierre Thibault, le mot de la fin?
Écoutez, effectivement, je pense qu'il faut inciter là, les gens à avoir des incitatifs. S'il n'y avait pas eu de réglementation pour le Vieux-Montréal, s'il n'y avait pas eu un arrondissement historique, il n'y aurait plus de Vieux-Montréal.
Ça serait pas du condo et tout ça. On va reparler de tout ça. Merci, je dois vous laisser là. Merci, Pierre Thibault, Laurent Turcot, Dinou Bambarou. Merci beaucoup à vous trois.
Merci.
Merci.